Alors bienvenue à chacun et à chacune pour ce temps de formation en cycle 1, cycle fondamental sur la messe. Nous avons vu il y a 2 semaines la première partie de la messe célébrée partie A, qui partait de le début de la messe, liturgie pénitentielle, louange à Dieu, première, deuxième lecture, évangile, psaume, et puis aussi prière universelle, etc. Nous rentrons maintenant dans la deuxième partie, proprement liturgie eucharistique, voilà comme l'appelle l'Église. Donc cette partie-là commence par l'offertoire. L'offertoire, c'est le moment où nous allons apporter les offrandes, les saintes espèces, le pain, le vin, sur l'autel AUTEL, et le prêtre va les offrir à Dieu pour le sacrifice. C'est pour ça que la messe est aussi appelée le saint sacrifice de la messe. Nous verrons aussi les saints mystères, voilà la sainte messe. Au moment de l'offertoire, généralement, il y a un chant qui accompagne cette, il peut y avoir une procession des offrandes qui accompagne cette offrande, ou voir un morceau d'orgue méditatif. C'est le moment, et nous allons le voir aussi, où nous nous offrons, dans l'offertoire, nous offrons les espèces, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, mais aussi nous nous offrons nous-mêmes. Dans les traditions, par exemple, africaines, les gens en dansent et apportent des fruits, des légumes. Voilà, c'est le moment où on offre les biens que l'on a à Dieu. De la même manière, c'est souvent à ce moment-là que nous faisons la quête, parce que c'est une forme d'offrande à Dieu pour l'Église. Voilà. Donc, on offre des choses, et certainement, il y a un sens aussi à donner des choses concrètes. Voilà, l'offrande n'est pas que spirituelle, elle est incarnée. Le prêtre arrive à l'autel, à UTEL. L'autel est marqué de 5 croix, je l'ai déjà dit peut-être, c'est-à-dire une croix à chaque extrémité, une croix centrale qui représente les 5 plaies du Christ. Sur les plaies, les mains, les 2 mains, les 2 pieds, et sur le côté. L'autel AUTEL est le lieu liturgique par excellence où tout gravite dans la liturgie. On s'incline devant, on embrasse l'autel au début, on embrasse l'autel à la fin. C'est le lieu du culte, parce que c'est le lieu du sacrifice. Et nous sommes à la messe, le saint sacrifice de la messe. Et tandis que des fois, là, par exemple derrière nous, il y a la présence eucharistique dans le tabernacle, qui est derrière l'autel, ce n'est pas obligatoire qu'il y ait la présence eucharistique derrière l'autel. Être à côté, ni même aussi elle ne peut ne pas être là. Mais dans la liturgie, ce qui est premier, c'est, pendant que nous officions la liturgie, l'autel, c'est le lieu du culte, c'est le lieu où nous, quelque part, nous allons rendre un culte à Dieu. Cet autel représente plusieurs choses, il représente d'abord le Christ. Voilà, les cinq croix consacrées, il y a un rite de consécration pour les autels avec de l'huile et des flammes, voilà, avec le prêtre et l'évêque, c'est un autel consacré. Généralement, il y a des reliques dans cet autel, des reliques de saints. C'est pour ça que les premiers chrétiens faisaient des autels, ont pris la messe sur les tombes des martyrs. Voilà. Et après, dans chaque grand autel, on mettait des reliques de saints, de martyrs. Donc, normalement, un autel est consacré, il y a des reliques. Et cet autel représente la pierre sur laquelle est posée la croix de Christ, calvaire. On va voir que c'est concret, réel. De la même manière, cette pierre d'autel représente la table eucharistique du Christ qui célèbre la scène avec les apôtres. De la même manière, cet autel représente aussi la pierre tombale où le Christ est enterré et où le Christ ressuscite. Voilà, c'est l'autel. Donc l'autel a vraiment une signification christique. Voilà, il est un condensé de plusieurs expériences du sacrifice, de la mort et la résurrection et de l'Eucharistie. Mais en fait, ces trois éléments-là. Vous les avez dans la messe. Voilà. Pour la déco, mais pas que la déco, pour le sens liturgique, dans les éléments, normalement nous mettons des bougies de chaque côté de l'autel. Et en forme ordinaire, une croix au milieu. Les bougies indiquent la gradualité des fêtes. La plus basse étant la féerie, il n'y a pas de fête. Puis après, une mémoire. Il y a des mémoires facultatives et obligatoires. Et là, nous sommes obligés de célébrer. Parce que c'est important de faire mention de tel ou tel saint. Vous avez des fêtes, donc c'est un degré encore supérieur, et vous avez des solennités. Voilà. essentiellement du Seigneur, mais aussi de la Vierge Marie, et le dimanche, des solennités. La gradation, c'est qu'une féerie, ou peut-être une mémoire, c'est une bougie facultative. Deux bougies, mémoire obligatoire, faite. Trois bougies, solennité. Voilà. Et quand l'évêque est là, on rajoute en plus aux trois bougies de chaque côté, donc aux six bougies, quand c'est une solennité, la bougie derrière le crucifix, les sept bougies. Voilà. Quelqu'un me dit, ça fait écho au chandelier à sept branches, voilà. Mais c'est vraiment cette idée de gradualité qui est importante. Pourquoi une croix et comment est posée la croix? La croix, normalement, est posée vers le prêtre en forme ordinaire. Et de fait, en forme extraordinaire, tout le monde est tourné vers la croix. On est tous tournés vers la croix parce que le sacrifice est le saint sacrifice de la messe. On va assister en direct à la crucifixion du Christ, à sa mort. Donc, on a la croix en face des yeux pour comprendre visiblement ce que nous célébrons invisiblement. De la même manière, la croix est posée au milieu du prêtre, quand il est en forme ordinaire, sur l'autel, elle est tournée vers le prêtre, non pas pour faire plaisir, comme un instrument décoratif parmi d'autres, même de piété pour le peuple, c'est tourné vers le prêtre pour que le prêtre ait bien conscience qu'il s'élève le saint sacrifice de l'autel en direct. Et donc le prêtre n'est pas d'abord face au peuple, il est face à Dieu. Il n'est pas dos au peuple, il est face à Dieu. De la même manière, il est face à la croix, il est face à Dieu. Vraiment important d'avoir conscience de cela, sinon le prêtre risque d'être un animateur comme un one-man show. Mais c'est d'abord il est face à Dieu, il est face à la croix, c'est important. Donc cet autel, le prêtre, il dépose, il déploie un vêtement, un linge, qui est une forme de carré quand il est déployé, et qui est, quand il est plié, il est replié en 9 petits carrés, les uns sur les autres. C'est un corporal, dont il y a une croix au milieu. Ce corporal est étendu sur l'autel, au moment de l'offertoire. Et le prêtre, à chaque fois, va poser les saintes espèces sur l'autel, en mettant sur le corporal. Le corporal, on s'en sert quand on fait une exposition du Saint-Sacrement ou quand on célèbre la messe. Ou quand, par exemple, on va sortir une custode avec la présence réelle du Seigneur dedans, on pose ça sur le corporal. Pourquoi? Parce que le corporal, comme son nom l'indique, c'est le vêtement pour le corps. En fait, ça fait écho au linceul dans le tombeau qui a entouré Jésus. Le corporal, c'est le vêtement qui touche le corps de Jésus. Et quand on a consacré les espèces eucharistiques, on peut toucher le corps de Jésus. Donc on met le corporal. De la même manière, quand on replie le corporal, et non comme une vieille nappe qu'on secourait, le corporal, on le replie de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter qu'aucune parcelle de l'hostie consacrée, donc le corps du Christ, tombe par terre. Voilà, c'est précis. Voilà ce vêtement saint à quoi il sert. Et normalement, sur le corporal, il n'y a que les offrandes. C'est le lieu du sacrifice, on ne met pas le missel, le micro sur le corporal, quoi que ce soit, c'est le lieu du sacrifice. Voilà. C'est le lieu du sacrifice sur l'autel du sacrifice, c'est vraiment le lieu saint. Voilà. Le prêtre pose le corporal, on lui apporte la patène. La patène, c'est cette petite assiette dorée. Alors j'insiste sur le fait que les objets sont dorés. L'Église nous invite à ce que le plus possible de choses soient dorées, et qu'elles ne soient pas poreuses. Et pas d'un matériau non noble, mais vraiment doré, et de matériaux très nobles et non poreux, parce qu'il s'agit là des saintes espèces consacrées à Dieu. Et donc il est important, sur ce domaine-là, de ne pas jouer aux pauvres, mais de faire, non pas riche, mais de faire croyant, c'est-à-dire de donner le maximum à Dieu. Je fais cette petite parenthèse qui est importante, mais qui est un peu une sorte d'électrochoc. Dans les cultures les plus pauvres et chrétiennes, les monuments à Dieu et les lieux de culte sont magnifiques. Les pauvres se saignent pour que le culte rendu à Dieu soit magnifique. Voilà un vrai sens chrétien. Ce qui est étonnant, c'est que un artiste qui est très à la mode, mais qui est excellent, Arcabas, dans une émission a rappelé ça. On lui a dit, mais pourquoi vous mettez de l'or dans vos peintures? Il a dit, mais c'est parce que c'est pour Dieu. On lui a dit, mais vous ne pourriez pas faire un peu moins? Il a dit, mais à ce moment-là, c'est que vous n'êtes pas vraiment croyant. Parce que quand c'est pour Dieu, c'est toujours au maximum. Et donc on ne fait pas de pauvreté sur la liturgie. Ce n'est pas le lieu de la pauvreté, la liturgie, qu'on fait le curé d'Ars, qui vivait très pauvrement, qui au début de son ministère dormait sur une poutre. Très bien. Mais la liturgie, c'était ce petit curé qui allait dans les grandes villes acheter les calices et les étoles Et les chasubles le plus cher, on disait, mais qui c'est ce petit curé qui prend aussi cher? Parce que rien n'est trop beau sur Dieu, et on sait que le curé d'Arc a récupéré le tabernacle de Saint-Sulpice pour sa petite chapelle. Donc il était au maximum. Donc, pour Dieu, c'est Dieu. Pour nous, c'est différent. Et dans l'Ancien Testament, c'est pareil. Les rites qu'il y avait, les consignes que le Seigneur a données pour l'Arche, c'est sacrément cher. Mais c'est normal. Parce que c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Voilà. Donc le prêtre amène la patène, cette petite assiette dorée, où il présente cela au Seigneur. Et il dit, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Cette offrande que fait le prêtre, il l'a fait au nom de tout le peuple de Dieu. Il exerce ainsi sa médiation sacerdotale. Je l'ai déjà dit, mais j'y reviendrai sur ce que c'est. Sa médiation en tant que ministre, ordonné, prêtre. Le prêtre dit que cette hostie consacrée, cette hostie pour l'instant, de pain, est fruit de la terre, de fait, c'est du pain, et travail des hommes. De fait, il ne pousse pas des hosties comme cela dans les jardins. Ça a quand même été travaillé par les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous offrons à Dieu sa création et aussi notre travail. Voilà. Et ce pain-là, il deviendra le pain de la vie. Confère Jean 6, Jean chapitre 6, le discours du pain de vie. C'est le discours du pain de vie. C'est-à-dire, c'est le discours où nous avons tout le récit eucharistique. Pas le récit d'institution eucharistique, mais tout le déploiement de ce qu'est l'eucharistique pour Saint Jean. Et donc là, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le prêtre peut le dire en silence. Il peut le dire autour. Ces paroles. De la même manière, on lui apporte le calice. Alors la calice, c'est pas la coupe de football, c'est vraiment le calice. Voilà. Le saint calice, où il y a du. Et on va mettre du vin dedans et de l'eau. Et le prêtre dira, comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis la divinité de celui qui a pris notre humanité. Donc nous mettons une goutte d'eau dans le vin, signe que nous participons à l'offrande du Christ. C'est toute notre humanité. De la même manière, vous pouvez retrouver le fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Nous offrons la création et le travail de l'homme. Il est important de noter qu'on prend au sérieux les espèces. Voyez-vous, si par exemple, par malheur, le prêtre mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dans le vin, il dissoudrait le vin en eau vineuse, je ne sais pas comment on dit. Bon, mais il doit recommencer le messe. Parce qu'il n'y a plus de substance, donc il n'y aura pas de sang du Christ. Donc c'est très sérieux, on ne peut pas se tromper. Donc on recommence à ce moment-là. Il est arrivé un doute, c'est arrivé, qu'on inverse l'eau à la place du vin, dans deux petites heures. Et au moment où on s'en rend compte, on doit recommencer. C'est pas le sang du Christ, il n'y aura pas de sacrifice. Donc on prend au sérieux, c'est pas voilà, vous voyez bien là, on n'est pas dans l'ordre du symbole. On est dans l'ordre du geste efficace qui agit réellement si les espèces sont là. Si on les change, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le prêtre dit, offre ça à Dieu, tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Nous voyons que c'est dans ce vin, dans ce sang, que nous avons accès au royaume éternel. Nous voyons que, par exemple, dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Mais de fait, nous allons laver notre robe dans le sang de l'agneau à la messe. Donc il y a quelque chose de fort qui nous est dit. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Puis le prêtre s'incline et dit, humbles et pauvres, et il le dit à voix basse, vous voyez, ce sont des secrets. C'est pas obligé de dire à pleine voix. Il y a des choses qui sont dites entre le prêtre et Dieu pour son peuple, des fois pour le prêtre lui-même, pour prendre conscience de ce qu'il fait. Il a aussi besoin de prier pour lui, le pauvre. Et donc voilà, tout n'est pas à haute voix, il y a des gradualités. À nos épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. D'abord, le sacrifice de Dieu que nous allons faire. Et là, comme nous mettons en mode déployé, c'est en mode normal, donc c'est la messe du dimanche, et qui pourrait se faire en semaine, parce que le Père du Baume nous rappelait que l'encens n'est pas un signe de fête, mais un signe de culte. D'ailleurs, aux sépultures, ce n'est pas trop la fête. Et pourtant, l'encens est mort. d'abord un signe de culte. Donc on pourrait avoir l'encens tous les jours. C'est important de le dire. Donc à l'encens, on arrive, et le prêtre va encenser les offrandes. Généralement, on couvre les offrandes avant la consécration et après la consécration, mais pas pendant. C'est pour ça qu'il y a un petit carton décoré sur le calice qu'on appelle un pal, qui évite que les mouches viennent picorer dans le sang du Christ. C'est aussi bête que ça, on protège. De la même manière, on couvre les ciboires, les coupes avec couvercle, qui contiennent les hosties qui vont être consacrées. Et on les découvre au moment de la consécration. Donc on encense tout ça avant la consécration. On encense au-dessus, en dessous, vous voyez, une espèce de chorégraphie. Pourquoi ? Parce qu'on encense les offrandes, le lieu du sacrifice, et en dessous, on encense les reliques. Reliques, autel, voilà. On encense. Et on reçoit toujours les offrandes, l'encens, du côté droit. C'est généralement le diacre qui prépare. Le diacre a le droit de mettre l'eau dans le vin. De préparer l'offrande, c'est le seul à le faire en dehors du prêtre. Les autres non, ne peuvent pas le faire, même les acolytes. Et on arrive à la droite de l'autel. Voilà. Pareil pour se laver. Le prêtre fait le tour, il prépare le lieu du culte, il encense la croix. Et puis après, le diacre ou l'acolyte, qu'on appelle un turiféraire, celui qui, est l'encens, qui porte l'encens, comme un siroféraire, c'est celui qui porte les cierges, le turiféraire va encenser, ou le diacre, le prêtre. Pourquoi il encense le prêtre ? Parce que le prêtre, non seulement rend un culte à Dieu et va offrir les offrandes, mais il va s'offrir lui-même. Donc il est offrande lui aussi, donc on encense. Et on encensera à ce moment-là les autres prêtres après. Alors pourquoi on encense le peuple de Dieu ? Parce que le peuple de Dieu va s'offrir lui aussi dans le sacrifice de Dieu. Il est offrande lui-même, donc on l'encense. Voilà, on va tous s'offrir, les amis. Donc on offre l'encens. Et à ce moment-là, pendant qu'on encense, on enlève le missel romain, le livre qui sert à la prière eucharistique, comme le lectionnaire servait à la parole de Dieu et l'évangéliaire quand il y a un bel évangile à lire. Voilà, on enlève le lectionnaire parce que le lectionnaire ne va pas être offert à Dieu, le missel non plus. Il ne va pas être offrande. Donc on l'enlève, y compris le pupitre. Et on le remet après l'encens, parce qu'il y a un moyen pratique pour aider. Dans un absolu, on pourra enlever le micro. Donc voilà. Donc on encense. Une fois que c'est fait, le prêtre va à nouveau à droite de l'autel et dit humblement et à voix basse, « Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi. » Alors non, c'est l'été avant, excusez-moi. Mais là, il dit « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » C'est le lave-moi. Et en fait, il n'a pas ses mains en mode « Passe-moi du savon » et on y va. Il lave le bout des doigts. Parce que c'est le lieu du contact avec le Saint, avec le Saint. Et ça, ça reprend un vieux rite juif, où on se lave. Voilà. À ce moment, il s'incline, et il est prêt pour le sacrifice. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà. Ce qui est important de prendre conscience, c'est que ce n'est pas le sacrifice du prêtre, ce n'est pas le sacrifice de la communauté paroissiale et d'un tel ou d'un tel, c'est de toute l'Église universelle. Et de toute l'Église, visible et invisible, on offre Jésus. Il n'y en a qu'un, c'est lui, on l'offre. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». C'est-à-dire, ça va faire rayonner la gloire de Dieu, c'est pour sa louange, pour son action de grâce. Et en même temps, c'est vital. Pour le salut du monde. C'est l'action salvifique par excellence. On va y venir. Et le prêtre commence alors ce qu'on appelle la préface, qui est un chant de louange à Dieu. Donc on est monté d'un cran là, par rapport au, on monte encore par rapport à l'évangile, aux Alléluia et au Gloria, on monte encore. Le prêtre va chanter tel un soliste devant le cœur, mais il va chanter au nom de tout le peuple de Dieu, dans sa médiation sacerdotale, pour louer le Seigneur. Donc on peut être unis comme un orchestre à son soliste. Et le prêtre dit, le Seigneur soit avec vous. On se rappelle qu'il est là, parce qu'il nous a réunis, et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Donc on se tourne vers Dieu de manière plus forte. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et qu'est-ce que dit le prêtre à ce moment-là ? Il dit, cela est juste et bon. c'est-à-dire ses justices, c'est-à-dire c'est la vertu de justice cardinale non théologale, dont une sous-partie de cette vertu, c'est la vertu de religion. C'est normal de rendre un culte à Dieu parce qu'il est ton créateur. Il t'a créé, tu lui dois tout. En plus, si tu as la foi, c'est normal de rendre un culte à Dieu parce que c'est ton rédempteur et sauveur. Il t'a sauvé, tu lui dois tout. Donc, cela est juste. Que ça me plaise ou pas, que je vais bien ou pas, cela est juste. Je rends ce culte. Mais en plus, parce que Dieu fait bien les choses, ce qui est juste, il veut que ce soit bon. Cela est juste et bon, ça me fait du bien de rendre à Dieu. Ça me fait participer à son amour. Je prends conscience de ce que je lui rends. Amen, Seigneur. Cela est juste et bon de faire ça. Et à ce moment-là, le prêtre, il renchérit, parce que c'est vraiment juste et bon, on met le paquet. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Il a les mains ainsi levées. C'est les attitudes de Laurent. Laurent, L'O-R-A-N-T. Du priant. Laurent, c'est celui qui... Et en fait, le peuple de Dieu n'a pas cette attitude-là, n'a jamais cette attitude-là, y compris dans le Notre Père. C'est la médiation sacerdotale à nouveau qui s'exerce dans l'intercession ou dans l'action de grâce au nom du peuple de Dieu vers Dieu. Donc le prêtre a cette attitude-là, de Laurent, et dit vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. La liturgie, c'est un acte de louange vers le Père. Et là, dans la préface, c'est toujours vers le Père. Et après, on dit dans la préface quelque chose qui est propre, qu'on veut fêter, parce qu'on ne peut pas fêter tout le mystère de Dieu tout le temps, sur un point particulier. Là, j'ai pris la nativité, car la révélation de sa gloire s'est éclairée pour nous d'une manière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Voilà. Donc là, on voit, on rend gloire à Dieu parce que c'est juste et bon au Père, et parce que le Père nous a fait connaître son Fils, et sa gloire se fait connaître dans le mystère de l'incarnation de Jésus. Voilà ce que dit le prêtre, donc c'est toujours en actualité avec les temps liturgiques des préfaces. Et voilà, généralement, ça se conclut toujours en lien avec le monde invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de la gloire, et sans fin nous proclamons. Et nous proclamons, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient nous sauver, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'est-ce que nous faisons quand nous faisons cela? Nous nous unissons à la voix des saints, des anges, des bienheureux, des personnes au purgatoire. Nous nous unissons à ceux qui voient Dieu ou qui sont dans la lumière transformante de Dieu. L'Église invisible est unie à l'Église visible. Vous avez trois niveaux d'Église. L'Église pérégrinante, c'est nous. L'Église souffrante, c'est purgatoire. L'Église glorifiée. L'Église céleste, qui est le ciel. En enfer, on ne voit plus Dieu. Donc c'est vraiment ces trois lieux où on loue Dieu et où on le Seigneur uni. Donc en fait, invisiblement autour de nous, il y a les anges, il y a la Vierge Marie qui loue le Seigneur. La messe, c'est une percée dans le ciel. Et nous chantons ce que chantait l'intuition du prophète Isaïe, qui voit Dieu, pas directement, mais voit les anges, les séraphins louer le trois fois saint, le Dieu des armées, le Deo Sabaoth. Et bien en fait, c'est ce qu'on est en train de faire, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. On loue le Dieu. On loue Dieu entouré de ses anges, de ses cohortes d'anges et de saints. On est unis à cette louange des anges. C'est très beau. Et en même temps, nous avons intégré dans cette prière-là, on se sent tous, différents éléments, qui sont des éléments christiques, comme « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est Christ qui vient au nom de Dieu pour nous sauver. » Et « Hosanna au plus haut des cieux, ben, Hosanna fils de David, nous retrouverons ça pendant le temps des rameaux, le dimanche des rameaux, où le peuple de Dieu accueillera Jésus comme Messie sur un âne avant de le tuer. » Donc là, nous avons la gloire de Dieu unie aux anges avec cette dimension de la venue de Jésus comme sauveur christique et aussi aux âmes, le Sanctus. Donc tout le monde chante à ce moment-là, tout le monde est uni aux anges pour avoir conscience qu'on fait son job de chrétien en faisant ça, c'est-à-dire le job de louange, ce qu'on prend au ciel. Et on fait son job de chrétien. Et à ce moment-là, le prêtre continue la liturgie eucharistique en prenant une partie. Vous avez quatre prières eucharistiques en forme ordinaire et une en forme extraordinaire. Il y en a quatre qui ont différentes formes, mais ont le même contenu, ultimement, mais des nuances. Pour faire simple, vous avez le canon romain en forme ordinaire, qui est une prière qui a le plus de chefs. Voilà. Très traditionnel, une prière dont je ne saurais pas expliquer le sens, il faudra demander au Père Lubeau, la prière eucharistique numéro 2 qui est courte, mais le Père Lubeau pourrait vous donner son importance. La prière eucharistique numéro 3 qui est tournée très fortement vers le Saint-Esprit, voilà, tournée très fortement sur la place du Saint-Esprit, et la prière numéro 4 qui a l'originalité de montrer le dessin de l'histoire du salut. Et cette prière numéro 4 est composée d'une propre préface, ce qui fait qu'on ne l'apprend jamais le dimanche, parce que le dimanche, il y a une préface propre au dimanche. Donc on l'apprend en semaine, quand il n'y a pas de préface de martyr, de saint à prendre. Donc on l'apprend moins. Donc généralement, nous oscillons plutôt le dimanche entre la prière 1, 2 et 3. Donc là, je prends le modèle de la prière 1, le canon romain. Voilà. Et le prêtre continue, les mains levées, en disant « Père infiniment bon, toi, vertu monte de louange, nous te supplions » par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et là, il va bénir en faisant un signe de croix sur les offrandes. Dans les autres prières liturgiques, ça se fait après l'épiclèse. Mais là, ça se fait à cet endroit-là. Je vais dire ce qu'est l'épiclèse. D'accepter de bénir ses offrandes. En faisant cela, le prêtre montre que ses offrandes sont liées au mystère de la croix aussi. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix, elle protège-la, veille la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Alain, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Alors, plusieurs choses sont dites. La première chose, vous avez peut-être remarqué, c'est que le prêtre, au nom de Jésus, il s'incline. Il s'incline au nom de Jésus dans la messe, il s'incline au nom du Saint du jour, il s'incline au nom de la Vierge Marie et au nom du pape. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on cite toujours le pape et l'évêque du lieu. Ça veut dire que si, par exemple, moi, petit prêtre, je célébrais la messe en Tanzanie, je citerai l'évêque du diocèse de Tanzanie dans lequel je serai. Parce que l'enjeu, c'est la communion avec l'évêque et le pape. Parce que la messe est toujours catholique. Elle est unie avec le pasteur suprême, qui est le successeur de Pierre, et le docteur du diocèse, le père du diocèse qui est l'évêque. Sinon, c'est pas catholique, sinon ça n'exprime pas le mystère de la communion de l'Église. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, seul le pape peut changer les rites de la prière eucharistique. Donc, parce qu'il a le pouvoir, et encore, il ne peut pas tout changer, mais il peut faire des nuances, comme le fait le pape François ces derniers temps sur le lavement des pieds. Eh bien, ça, c'est le propre du pape, vous voyez, c'est ce pouvoir que Dieu a accordé au pape. Et donc, quelquefois, nous sommes fidèles au pape, nous prions pour lui dans la communion des saints, nous prions pour notre pasteur à la messe. Et nous l'offrons à Dieu. Une fois que nous avons fait ça, et tous ceux qui sont fidèlement, qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres, il faut avoir conscience que la messe, telle que nous la célébrons, elle a évolué dans le temps. Je le dis maintenant, comme ça je ne vais pas le dire après, la messe n'est pas un mime. Voilà, je ne suis pas obligé de me mettre des cheveux longs, avec une barbe juive, des sandales et un habit juif il y a un peu plus de 2000 ans, de me mettre allongé sur peut-être un canapé romain, je ne sais pas, et de faire la messe, comme aurait peut-être pu le faire, je ne sais pas. Non, tout cela c'est du contextuel qu'on gomme. Mais nous avons pourtant gardé l'essentiel, ce qui est bien, ce que nous disons ma prière eucharistique, fidèlement à la foi catholique reçue des apôtres. C'est-à-dire les lieux clés focaux que contiennent le rite, qui sont potentiels de grâce, et tout le reste c'est du contextuel qui peut partir. Par exemple, quand vous regardez les récits des évangiles, de fait, Jésus, dans Luc, à un moment donné, il y a la bénédiction du pain, il continue à manger, et puis à un moment donné, il y a bénédiction du vin. Ah oui, mais alors, il faut qu'on fasse un repas pendant la messe? Eh bien non, le contextuel, on l'a enlevé. On a gardé les deux bénédictions. On les a mis conjoints, parce qu'on a compris que là se jouaient les points focaux de la grâce, et que le reste était contextuel. Donc la messe n'est pas un mime, elle est c'est une structure assistée par l'Esprit Saint dans les rites, mais instituée par Jésus-Christ effectivement, déployée dans le temps, qui contient tout le potentiel de grâce. Donc on ne change pas le rite. Changer le rite, c'est changer la manière de prier. Changer la manière de prier, le risque, c'est de perdre la foi. Parce que la loi de la prière, c'est la loi de la foi. Lex orandi, lex credendi, dit l'adage ancien. Mais pourtant, le contextuel peut changer, parce que le contextuel n'est pas véhicule de foi. Vous voyez l'importance de discerner, on n'est pas dans du mime. De la même manière, le prêtre, quand il prend l'hostie, il dit, il prit le pain, il le rompit, et le donna à ses disciples, et là, il n'a toujours pas rompu. Il n'a toujours pas rompu le pain. Pourquoi ? Parce qu'il ne mime pas. Il ne mime pas. On n'est pas dans du mime. On est dans une action sacrée qui véhicule le sacré, qui fait mémoire de tous les gestes et les paroles, qui les actualise, mais ce n'est pas un mime. Vous n'êtes pas habillé comme les juifs de l'époque. Ce n'est pas un mime. Et pourtant, ce qui est vécu il y a 2000 ans agit encore maintenant, parce que ça dépasse le temps. Alors qu'une pièce de théâtre mimée, vous verrez, on ne pourrait plus la jouer 2000 ans après. Il faudrait la refaire un petit peu, la dépoussiérer. Pas besoin pour la messe. Parce que le rite bouge pas. Le rite a quelque chose de la grâce. La forme peut évoluer, mais pas le contenu. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Donc nous demandons au Seigneur, véritablement, de prier pour nous. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption. Le prêtre dit, nous t'offrons cela. Et aussi, les fidèles, chacun à leur manière, disent, mais Seigneur, aussi on t'offre cela par les mains du prêtre, et on s'offre avec. Pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et puis là, le prêtre, je passe, mais va citer la communion de l'Église, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph, dans le canon charismatique. Canon romain numéro 1, l'Empire classique numéro 1, et le pape François a voulu que Saint Joseph soit mentionné explicitement dans les 3 autres prières eucharistiques. Donc maintenant, Saint Joseph est systématique après la Vierge Marie. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, dont tous les saints qui ont donné leur vie, là, ces apôtres, ces premiers pères de la foi, on les cite. Voilà, on les cite dans la prière. Le dimanche, nous avons le vrai, il y a une connotation particulière à ce moment-là, puisqu'on dit que c'est le jour de la résurrection. Ou alors, il y a la même chose, le jour de la nativité ou de la veillée pascale. Il y a des colorations de ce moment-là qui sont différentes. Je passe. Et puis, à ce moment-là, nous avons des paroles très fortes, hein, du style, avant l'épiclèse, dans le canon romain numéro 1, « Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. » Ça avait un peu chatouillé les oreilles d'un frère qui n'avait plus l'habitude d'entendre le canon de Romain et qui m'avait dit « Oula, il faudrait peut-être que l'Église change ce mot, c'est plus adapté. » Et je lui dis « Ben non, parce qu'on n'a pas changé la foi. » Parce qu'effectivement, le salut est en jeu et célébrer la messe, c'est pour éviter la damnation. C'est le salut qui est en jeu. Donc ce mot est tout à fait juste, mais il faut le comprendre dans un contexte large, mais sans diminuer ce mot. À ce moment-là, le prêtre va faire une épiclèse. C'est pas lui, hein, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, le prêtre est qu'un moyen. Il impose les mains sur les offrandes, en disant « Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de la bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette imposition des mains, vous l'avez à la confirmation, à l'ordination, c'est le signe de la descente du Saint-Esprit. Vous voyez, nous avons loué le Père, là le Saint-Esprit descend et va sanctifier les offrandes. C'est une sorte d'incarnation, le Saint-Esprit était descendu en Marie et le Verbe de Dieu s'était incarné. Là, le Verbe de Dieu va quelque part incarner le Fils de Dieu dans le pain et le vin. Et j'insiste sur l'aspect d'abaissement. En théologie, on appelle ça la kénose. L'abaissement de Dieu, qui quitte sa condition divine pour devenir homme, semblable à un homme à son aspect, mort sur la croix et pas grand-chose. C'est l'abaissement humble de Dieu, c'est Philippiens 2. Cette kénose-là, vous voyez, le père Antoine Chevrier, fondateur du Prado, disait il y a 3 lieux de l'abaissement de Dieu. Il y a Bethléem, la crèche. Il y a la croix du Christ. Deuxième abaissement, encore plus fort que le premier. Mais il y a le troisième, c'est le tabernacle, c'est Jésus aussi. Et oui, là, il ne parle plus. Voilà, il est tout petit. abaissement de Dieu. Donc c'est grand parce que Dieu va nous donner quelque chose qui nous sauve, le Christ, dans un abaissement, dans une grande humilité. Abaissement de Dieu, les offrandes sont sanctifiées. Alors là, c'est pas le moment de dire, mais ouais, est-ce que c'est du Jésus ou pas là? Parce que si jamais il y a un pilier qui tombe, le prêtre meurt et tout, est-ce que les hosties sont pas consacrées ou pas? Vous voyez, on avait ce genre de diagnostic, de débat théologique au Moyen-Âge, ce qu'on appelait la scolastique, et on avait tout catalogué pour savoir quand est-ce que ça l'était ou pas. Effectivement, les paroles sacramentelles de la consécration, c'est comment dire, le moment par excellence. Mais comme dirait le père Legault, la prière aussi, elle est sacramentale. Il ne faut pas être qu'à ce moment-là. La prière est qui veut qu'à la messe est sacramentale en soi. Et donc là, il y a une valeur. Il y a une valeur. Et vous pourrez demander compréhension au Père Legault, mais même dans des prières eucharistiques catholiques reconnues par l'Église, ça va vous étonner, dans certains cas, il n'y a pas de parole consécratoire et l'Église a discerné que c'était vrai. Donc, il faut intégrer l'épiclèse comme une vraie valeur, comme une vraie valeur liturgique. Ce n'est pas symbolique, c'est un vrai pouvoir là qui est en train de se faire. C'est fort, hein? Dans certaines prières eucharistiques, il n'y a pas de parole consécratoire, c'est reconnu par l'Église dans certains rites orientaux, et ça a valeur de consécration. Voilà, la veille de sa passion, il prit les mains dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Je prends ce passage en mode jeudi saint. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui des hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, et prit le pain dans ses mains très saintes, etc. Le prêtre dit bien aujourd'hui, le jour du jeudi saint, parce qu'il se rappelle, et il rappelle à toute l'assemblée, que nous sommes en train de faire mémoire du jour où le Seigneur a institué l'Eucharistie. Mais ce qui est très fort, c'est qu'à chaque messe, ce n'est pas un souvenir, c'est du direct. À chaque lettre, nous pouvons dire aujourd'hui. Pour le faire en mode cinéma, c'est Stargate. On dépasse l'espace-temps. C'est une porte interdimensionnelle, si vous voulez. Bon, ça c'est pour le cinéma. Et c'est plus fort que le cinéma. Effectivement, on est hors du temps dans la messe. On est rendu présent au moment de la Sainte Cène de Jésus et au moment de la croix et de la résurrection. C'est du direct. C'est pas une répétition. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et là, c'est très important parce que ça, on peut avoir écho cette parole du Christ qui disait avec ses disciples, j'ai ardemment désiré manger la Pâque avec vous. Spirituellement, j'ai ardemment désiré communier de mon mystère pascal avec vous, ma mort et ma résurrection. Cet ardemment, il le veut pour tous les hommes. Prenez et mangez-en tous. Dieu a le désir de se donner à tout homme et à toute femme. Dieu a le désir de se donner sacramentellement à tout homme et à toute femme, même si ceux-ci ne peuvent pas communier pour telle ou telle raison. On voit que le désir de Dieu est réellement d'aller à fond vers les autres. Et donc on peut très bien dire, en voyant des frères et sœurs, « Eh dis donc, t'as pas fait ta première communion, tu connais pas Jésus, c'est pas normal. » Il faut être capable d'entendre ça quand nous sommes à la messe, que Dieu a un désir. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque. Prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Ce n'est pas le corps simplement, c'est tout l'être de Jésus qui est livré. Et dans les saintes espèces, nous dit l'Église, dans le sang du Christ, dans le corps du Christ, il y a bien tout le corps du Christ, toute l'âme du Christ, toute la divinité du Christ. Voilà. Il n'y en a pas un qui boit du sang du Christ et qui a pris le sang, puis l'autre qui a pris un corps inerte. Il n'y a rien, tout le Christ. Et les deux espèces. Et donc, quand il donne tout, il donne tout. De la même manière, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Donc, vous voyez, là, on a enlevé le contextuel, on a gardé les moments centraux du récit de la scène. Et en te rendant grâce à nouveau, il l'a béni, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. Alliance nouvelle éternelle, nouveau Ancien Testament, le Nouveau Testament se réalisa dans l'alliance de la mort du Christ. Le sang de l'alliance nouvelle et c'est pour toujours. Il n'y a pas d'autre lieu de salut que la mort du Christ, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » On se rappelle cette parole de l'Apocalypse, « Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Et là, le Seigneur ne nous dit pas en mode album photo, tu te souviendras du truc et tu penseras un peu de temps en temps. C'est le mémorial, c'est-à-dire, c'est un commandement que Dieu a, que Jésus a demandé à ses apôtres et qu'ils ont compris dès le départ comme ça, en refaisant la fraction du pain, qui est le terme néo-testamentaire pour parler de la messe. Et qu'ils savaient donc, c'est Dieu qu'en faisant ça, il ne faisait pas album photo, mais qu'ils étaient en train de rendre présent ce que le Seigneur leur avait demandé de faire, c'est-à-dire sa personne donnée dans, sous les espèces du pain et du vin. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand l'Église fait ça, elle obéit à un ordre du Seigneur au même titre que quand elle entend « Aimez-vous les uns les autres ». C'est le commandement de Dieu. Voilà. L'Église n'a pas inventé la messe, c'est Jésus qui l'a inventée. Et donc, dans les deux fois, le prêtre élève l'hostie, puis élève la coupe. Je disais, dans les deux cas, le prêtre élève la patène, l'hostie, plutôt, et la deuxième fois, la coupe, le calice. L'élévation, et qui est une monstration, on montre Dieu. Ça s'est développé au Moyen-Âge, montrer Dieu. Le peuple avait besoin de montrer Dieu, de voir Dieu, parce qu'on était normalement depuis très longtemps en forme extraordinaire, dos au peuple, voilà, et pas dos au peuple face à Dieu. Voilà. Donc, voilà, on voit, le peuple a besoin de voir ce moment-là, donc on levait très haut pour montrer. Et on avait même de très grands calices, parce que le prêtre ne pouvait pas, avec la lourdeur des habits liturgiques, monter trop haut, il ne pouvait plus, donc on avait des calices tuniques pour montrer au-dessus de sa tête. Voilà. Et donc en fait, dans cette monstration qui est un geste si pratique de voir, en réalité, il y a d'abord une signification spirituelle. Le Seigneur le dit, « Quand j'aurai été levé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il dit ça en Saint Jean. Le Seigneur est élevé de terre et il attire à lui tous les hommes. Il est élevé de terre à ce moment-là. Mais il est élevé sur la croix. Ce qui nous est rendu présent à ce moment-là, c'est la croix. Vous pourriez très bien dessiner une croix devant le prêtre, dans l'intersection de la ligne horizontale et diagonale étant le cœur du Christ, vous auriez Jésus en croix. C'est tellement vrai que des mystiques le vivaient. Padre Pio, ça saignait quand il faisait la messe, parce qu'il était uni au sacrifice de la croix en direct. C'est pour ça que nous sommes à genoux à ce moment-là, parce que nous adorons notre Dieu qui meurt pour nous en direct. La messe n'est pas un symbole, c'est du direct. Il meurt sur la croix et par deux fois, il nous est donné le mystère de la croix. Et c'est très important, et j'insiste sur cet aspect, ce n'est pas facultatif de s'agenouiller, c'est obligatoire. Si on a une canne, un fauteuil roulant, des genoux en métal et qu'on ne doit plus bouger, ok. Mais sinon, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça fait partie des gestes que l'Église nous demande de faire en signe d'adoration. Il y a des lieux qui sont de l'ordre de la liberté d'expression, il y a des lieux qui sont de l'ordre de l'obligation de culte, ça en fait partie. De savoir. Ce qui est important aussi, c'est de rappeler que c'est la charité qui prédomine tout. Nous n'avons pas jugé nos frères et sœurs. Mais on a une conscience, il est bon de savoir qu'est-ce que nous demande l'Église et elle nous demande à ce moment-là d'être à genoux parce que notre Dieu meurt pour nous. Et si nous ne le ferons pas là, où est-ce que nous le ferons? Je prends un autre exemple, quand nous voyons par exemple des personnes qui vont mourir sur un lit d'hôpital, on tient la main de la personne et là on est tout attentif. Ben, à la messe, si c'est notre Dieu, on ne va pas mettre les mains dans les poches et regarder comme un spectateur. Il y a un peu une disproportion là. Donc là, on met le paquet. Et on adore le Seigneur qui se donne à nous. Et j'insiste aussi, le Seigneur dit, et là on peut intercéder pour tout le peuple, on peut intercéder pour toute l'Église, pour le monde entier. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, donne-nous le salut. Et on est à la croix. Et là, on a le droit de dire ce qu'on veut dire à Jésus à la croix. Comme le bon larron, prends-moi dans ton royaume. Voilà. On s'offre avec Jésus, l'offrande nous amène à nous offrir dans la croix de Jésus. Vous avez des personnes, des fois, qui ont fauteuil roulant, assis au premier rang, à l'offertoire, pour offrir leur croix, leur misère, et elles voient dans l'Eucharistie, cet moment où l'élévation, ceci est encore livré pour vous, le sens de leur vie, Jésus est mort pour moi, je m'offre avec toi dans ma souffrance, je m'offre dans ce que je suis, Jésus avec toi. On voit le lieu du pardon par excellence. Qui élève qui? Si le prêtre élève Jésus dans l'Eucharistie, consacré, et dans le vin consacré, qui est le corps et sans Jésus, c'est bien Jésus qui lève le prêtre. Et mystiquement, des fois, ça peut arriver, on a vu des prêtres qui faisaient de la méditation à ce moment-là, pour vous montrer qu'en fait, celui qui tracte l'autre, c'est pas le prêtre, c'est Jésus. Même s'il est caché, c'est vraiment le Seigneur qui a la main, qui a en main les choses. C'est vraiment le Seigneur qui a en main, à ce moment-là, la prière. C'est lui qui prie, c'est lui qui s'offre. Et nous, on est avec. Ça, c'est important. Pourquoi y a-t-il deux espèces à ce moment-là? Il y a deux espèces parce que le sang a été versé complètement. Dieu a donné sa vie complètement. Une goutte, nous disent les mystiques, aurait pu suffire à notre salut. Une goutte du sang, du Fils éternel, fait cher. Mais le Seigneur a voulu par surabondance donner tout. Et donc, la séparation dans les espèces du corps et du sang montre en fait ce don total du corps qui a donné tout son sang, qui a donné tout son amour. Voilà. Très fort, et donc après le prêtre va faire la réunification en mettant un corps, un morceau de l'espèce, corps du Christ dans le sang du Christ. Même si je maintiens ce que nous dit l'Église, dans les deux espèces, vous avez toute la personne de Jésus, son corps, son âme et sa vie. Alors le prêtre, une fois, par deux fois, il s'incline au moment de la consécration. Il s'incline par deux fois pour signifier véritablement la mort du Seigneur et l'hommage rendu à Dieu, l'adoration rendue à Dieu. Charles de Foucault dira qu'on ne peut pas communier si on n'adore pas. Il avait tout à fait raison, on ne peut pas recevoir si on n'a pas compris que ça vient de la croix. Donc on adore, on s'incline par deux fois, et dans la forme ordinaire, de fait, les prêtres concélébrants ne peuvent pas s'incliner. Le rituel est ainsi, donc ils ne peuvent pas s'agenouiller, donc ils s'inclinent légèrement, profondément, et ils s'inclinent avec le président qui s'agenouille. Voilà. Et le président, en se relevant, en reprotégeant les espèces, si c'est possible, avec le pâle, etc., va dire « Il est grand le mystère de la foi ». Quand il dit cela, il dit en gros « Toute la foi est dans l'Eucharistie, toute la foi est dans ce qu'on vient de célébrer. Tout le credo, toute la foi de l'Église, tous les apôtres, la communion des saints, l'Église, c'est ça, c'est du direct. L'Eucharistie est le sacrement de la foi. Tous les autres sacrements découlent de l'Eucharistie. Même si ce n'est pas donné en ordre chronologique, tout vient de Jésus. Or, l'Eucharistie, c'est Jésus. Donc l'Eucharistie contient tous les sacrements. Jésus, c'est toute la foi de l'Église. L'Eucharistie, c'est tout Jésus. L'Eucharistie, c'est toute la foi de l'Église. Il est grand le mystère de la foi. C'est aussi un acte d'admiration. Ça nous dépasse. C'est immense. Il est grand le mystère de la foi. Et là, le peuple de Dieu, conscient de cela, va dire une phrase, un triptyque de phrases qui est aussi toute la foi, et d'une autre manière. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. C'est en direct. Vous savez, la parole de Dieu, on en a parlé, la proclamation, c'est une action directe, c'est pas une déclamation publicitaire ou je ne sais pas, comme un poème, c'est du direct, on parle, ça agit. Et là, nous proclamons ta mort, c'est du direct, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, c'est aussi la célébration de la résurrection au même moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas d'espèce consacrée encore et sans Jésus si Jésus n'était pas ressuscité. Il faut qu'il soit ressuscité pour qu'il y ait l'Eucharistie. Il faut qu'il soit ressuscité pour qu'il y ait des sacrements. Sinon, il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de puissance transformante, il n'y a pas de résurrection. Donc, l'Eucharistie présuppose la résurrection. Et l'Eucharistie rend présent la résurrection. On peut toucher le corps du ressuscité. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Et nous attendons ta venue dans la gloire, parce que nous savons que ce monde a une fin et que le Christ, comme il a dit, il va revenir. Et là, vous avez toute la foi chrétienne. Mort, résurrection, retour du Christ. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle la parousie. Le retour de Jésus, la parousie. Et là, le prêtre continue en disant « C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la bienheureuse passion de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur, parfait, etc. » En fait, le prêtre présente cette offrande à Dieu au nom de toute l'Église et il redit tout, dans le canon romain, il redit toute l'histoire de l'offrande à Dieu. Ça a commencé avec Abel. Ça a, par exemple, des grands moments. Abraham qui a fait des sacrifices. Isaac qui a fait offrir son fils. Melchisédek. etc. Donc on voit les différents rites qui ont préparé ce grand rite, cette grande offrande qui est l'offrande de Jésus à son Père. Et nous prions l'ange, nous prions les anges. Le prêtre s'incline et dit, nous t'en supplions Dieu Tout-Puissant qu'elle soit portée par ton ange. L'ange, me disait le Père Lubon encore ce matin, c'est d'abord le Christ, c'est lui qui s'offre au Père, mais c'est aussi les anges qui portent le Christ. Vous voyez ? En présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion en autel le corps et le sang du Christ, nous soyons comblés de ta grâce et de ta bénédiction. Et là, nous faisons mémoire de nos défunts. Souviens-toi de tes serviteurs et de ceux qui ont précédé marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. C'est quoi faire mémoire des défunts? On ne dit pas Jésus, on pense à eux parce que c'est leur anniversaire, voilà, une petite pensée sympa, Seigneur. Non. C'est pas mal, mais c'est pas ça. En fait, nos défunts sont soit au ciel, dans la gloire de Dieu, soit au purgatoire, soit en enfer. J'espère pas qu'ils soient en enfer par pitié, nous prions pour qu'ils se convertissent tous. Mais, généralement, nous n'arrivons pas au ciel directement parce que nous avons besoin d'être purifiés. Donc on sait au purgatoire. Or, au purgatoire, on est en mode passif. On ne peut plus se sanctifier et se purifier soi-même. Ici-bas, avec la grâce de Dieu, ça travaille. Là-haut, c'est plus que la grâce de Dieu. On ne peut plus rien faire au purgatoire. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour eux, puisque eux-mêmes ne peuvent plus rien faire pour eux-mêmes? Et on peut offrir Jésus. On peut offrir le saint sacrifice de la messe. On peut offrir le sang du Christ qui purifie, qui lave les vêtements des élus dans le sang de l'agneau. On peut offrir cela qui les purifie, qui accélère leur purification. Et donc, quand aux sépultures, on célèbre une sépulture, il est bon de faire dire une messe le jour même ou dans la suite. Pourquoi? Parce que le bouquet de fleurs, le poème de souvenir, l'hommage, est très bien. Mais c'est de la mémoire. La messe, c'est un service efficace, direct. Et ça sauve. C'est le plus grand cadeau qu'on peut faire. C'est le plus grand cadeau qu'on peut faire. Donc, ne l'oublions pas. La prière pour les défunts est importante. Voilà, c'est un grand cadeau, c'est un grand cadeau, et nous avons des témoignages de gens qui, effectivement, dans l'histoire de l'Église, ils ont entendu une âme leur demander « Ben, vous ne voulez pas dire une messe pour moi ?» Et ça, c'est fait. Donc, faisons-le. N'hésitons pas à demander de célébrer une messe pour telle ou telle intention. Donc, nous célébrons d'abord pour eux, et puis après, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Et nous, pécheurs, et on se tape la poitrine dans le canon numéro 1, qui mettons notre espérance dans ta miséricorde et notre foi, parce qu'on croit par-dessus tout que Dieu est bon et qu'il veut nous sauver. Hein. Donc on veut lui demander son aide et on le fait. Amène-nous dans la communauté des bienheureux martyrs, des saints, Jean-Baptiste et aussi les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le prêtre prend les offrandes. Le pain et le vin consacré, donc Jésus, il le prend et il le lève. En fait, c'est Jésus qui lève toute l'assemblée. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que dit le prêtre? Par lui, avec lui et en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus prend toute l'Église. Jésus qui prie, qui est en ce moment en train de prier, il prend avec lui. Et en lui, il nous attire vers le Père. La porte du ciel est ouverte. Vous savez, le rideau du temple est déchiré au moment de la mort de Jésus. Le rideau est ouvert, la porte du ciel est ouverte, l'accès au Père est ouvert depuis le pardon des péchés, la croix, l'élévation. Et à ce moment-là, la porte, on y va avec lui, nous emmène par lui, avec lui et en lui. La porte est ouverte, on y va. Et c'est pour ça que dans la foulée de par lui, avec lui et en lui, on dit le Notre Père. Parce que nous disons le Notre Père, parce que Jésus nous a amenés près du Père, dans son offrande. On s'est offert avec lui. Et il nous a donné l'accès au Père. Et il prie avec nous. Les espèces eucharistiques, c'est Jésus. Jésus le premier. Si on l'entendait, il est en train de dire avec « Je vous porte dans ma prière ». Donc, on prie avec Jésus, notre Père qui est aux cieux. Voilà, c'est très très fort. Je vais tourner page pour qu'on arrive. Et à ce moment-là, nous disons au Seigneur encore « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ». En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets. Le prêtre continue, et on dit encore, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. C'est une forme de doxologie. Voilà. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. On reconnaît la gloire de Dieu. Voilà. on peut le dire autrement, à toi le règne, à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et puis, le prêtre regarde véritablement le Christ. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. C'est ce qu'il a dit à la résurrection. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Lui demande cette paix et cette unité. Et à ce moment-là, le prêtre regarde l'assemblée et dit, les mains étendant les mains, comme les souffrants, comme le Christ qui accueille, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et à ce moment-là, soit lui, soit le diacre, qui est ministre de cette communion, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voilà. On ne se dit pas à ce moment-là, bonjour, comment tu vas? Ah, ça, je ne t'ai pas vu depuis longtemps, et on va voir les autres. On reste à sa place, nous dit l'Église, sobrement, ses voisins, les plus proches. C'est les voisins qu'on n'a peut-être pas choisis, donc c'est bien de le faire avec tout le monde, et qu'il faut éviter, ah ben je ne la connais pas, je ne le fais pas. Non, c'est la charité, les intéressés, on le fait. Les gens qui ont besoin d'être accueillis à ce moment-là par les frères et sœurs, ils ont droit à être accueillis, d'avoir un échange de paix. Et nous communiquons non pas notre bonjour, mais nous donnons celui qui est la paix. Frères et sœurs, en charité du Christ, donnez-vous la paix, donnez-vous ce que vous allez recevoir, celui qui est la paix. Donnez-vous la présence du ressuscité qui a donné la paix. Et c'est de la même manière que nous dirons à la fin de la messe, allez dans la paix du Christ. C'est pas du genre, bon, soyez tranquille, ça se passera bien cette semaine, soyez dans la paix. Ou alors, bonne journée. Non, c'est aller porter celui que vous avez reçu dans l'Eucharistie, dans la parole, qui vous a fait goûter cette paix. Allez dans la paix, soyez des messagers de la paix. C'est aussi fort que ça. Et de la paix de Jésus, pas la paix simplement sociale, politique, la paix du Christ, la paix profonde. Voilà. Le prêtre fait cela, et à ce moment-là, il fractionne, à ce moment-là et non avant, l'hostie consacrée. Il la fractionne, et il va mettre un morceau d'hostie dans le calice, que le corps, en disant, petite parole, que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Et généralement, pendant la fraction, on démarre l'agneau de Dieu, qui rappelle ce fameux verset de Saint Jean, Jean 1, chapitre 29, Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Voilà. Et on se prépare. Le prêtre dit différentes paroles. À ce moment-là, le diacre peut prendre la patène avec les hosties, ou même les hosties consacrées peuvent être posées sur le corporal, parce que c'est fait aussi pour ça. Et il va les donner aux différents prêtres. On les donne qu'aux prêtres. Pourquoi? Je vais expliquer ça, parce que le prêtre communie d'une manière particulière au corps et au sang de Christ. Et quand on donne à un prêtre, à la différence, et à l'évêque pareil, parce qu'ils sont tous les deux prêtres, mais c'est différent pour le diacre ou les laïcs, pour les autres, on va dire le corps du Christ. Là, pour le prêtre, on ne dit rien. Parce que le prêtre, il est uni, j'allais dire presque génétiquement, à l'Eucharistie. Et c'est à travers lui qu'est produit l'Eucharistie. Et je dis ça tout de suite maintenant, comme ça vous verrez quelque chose du mystère du prêtre et de l'Eucharistie. C'est pas pour le mettre en avant, mais pour bien comprendre. Si vous communiez à l'Eucharistie et que le prêtre ne communie pas, c'est pas la messe. Si le prêtre communie et que vous communiez, c'est la messe. Si le prêtre communie et vous ne communiez pas, c'est aussi la messe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une chose est de communier à l'Eucharistie, une chose est de célébrer le saint sacrifice de la messe jusqu'au bout, de l'offrande de soi totale pour qu'il y ait un sacrifié. Le sacrifié, c'est Jésus. Il doit être complètement donné. Mais le Seigneur a voulu associer le prêtre, qui doit, comme le bon pasteur dans Jean 10, donner sa vie pour ses brebis, être sacrifié avec. Et c'est pour ça qu'il doit boire jusqu'à la lime la coupe. Il doit se sacrifier avec. Il l'a dit aux apôtres, ma coupe, vous la boirez. Et donc le prêtre se sacrifie avec le Christ. Il consomme le sacrifice. Et quand il communie, on dit qu'il se communie parce qu'il communie au Christ. Et il est lui-même Christ à ce moment-là. Et il consomme le sacrifice. Et c'est pour ça que s'il n'y avait pas de sacrifice avec Jésus, la messe ne serait pas dite. Voyez, il faut qu'il y ait une fonction sacrificielle. Et c'est le prêtre qui remplit cette fonction. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est mystérieux, mais ça passe par une médiation humaine aussi. Et ça, c'est la fonction sacerdotale ministérielle qui veut ça, qui est de donner sa vie pour ses brebis. Il la donne de manière excellente en se sacrifiant avec le Christ dans l'Eucharistie. D'ailleurs, il ne dira pas « ceci est le corps du Christ », il dit « ceci est mon corps ». Il se sacrifie avec. Et quand il dit « ceci est mon corps », on n'a pas besoin de lui redire au moment de la communion. Il sait ce que c'est. Il est avec. Vous voyez, c'est un. Il y a un mystère là. Il y a quelque chose de vrai là. Donc le prêtre communie, il doit communier aux deux espèces et les espèces consacrées le jour même. Enfin, pas le jour même, à la messe. Sinon, ce n'est pas la consommation du sacrifice. Alors qu'un fidèle, il est bon qu'il communie aux espèces de la messe, mais s'il en manquait, il peut communier dans la réserve eucharistique, c'est toujours Jésus. Vous voyez, pour le prêtre, s'il ne connaît pas, la messe est à refaire. Parce qu'il n'a pas communié totalement au sacrifice. C'est mystérieux, hein. Et dites-vous, ce qu'il fait, il ne le fait pas que pour lui, il le fait pour vous. Donc il y a un vrai enjeu. L'enjeu derrière ça, c'est de redécouvrir la médiation sacerdotale. Voilà. Alors, nous communions comment ? On va s'arrêter là. Donc il y a souvent une procession qui commence. Le prêtre lève l'hostie. Alors vous avez vu, quand il dit par lui avec lui en lui, le prêtre ne montre pas l'hostie, mais montre la patène tournée vers le ciel et le calice. En fait, ce n'est pas pour nous, c'est que c'est tourné vers Jésus. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que c'est tourné vers Jésus, vers Dieu. Tandis que quand nous montrons l'hostie et le calice, heureux les invités au repas, au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, c'est vers lui. Et c'est une monstration plus basse que celle qui est, ceci est mon corps livré pour vous, qui est sur la croix. Là, on montre l'agneau de Dieu, et généralement, on se frappe la poitrine en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » On pense aux Romains qui fit un grand acte de foi et qui a édifié Jésus en disant « Tu peux faire guérir, tu n'es pas obligé de venir chez moi, je dis à mon soldat de faire ça, il le fait, etc. » Bon, voilà, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » Voilà, il y a vraiment une attitude d'humilité. Est-ce que je suis prêt ou pas à recevoir l'Eucharistie ? Voilà, et en demandant la grâce. Et je rappelle qu'on peut communier spirituellement à l'Eucharistie sans communier sacramentellement. Et que nos frères qui parfois ne peuvent pas communier parce qu'ils n'ont pas fait leur communion ou qu'ils ne peuvent pas pour telle ou telle raison et qu'ils s'avancent ainsi, les bras croisés, en réalité édifient les autres parce qu'ils nous aident à prendre conscience de la valeur de l'Eucharistie. Et leur humilité est source de grâce pour eux et pour la communauté. Et en faisant ça mystérieusement, ils édifient le corps de Christ. Et voilà. Donc, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et le prêtre dit, vous le serez, parce qu'il le dit tout bas, en communion au corps du Christ, que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle, la même chose que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. On communie comment ? Alors déjà, il y a une procession vers l'Eucharistie qui est très traditionnelle. Ce n'est pas un truc des progressistes ou des progros modernos, je ne sais quoi. C'est très traditionnel de chanter à ce moment-là, parce que c'est le chant liturgique de l'assemblée de l'épouse de Dieu qui va vers son époux. Et nous, quelque part, nous, on n'y va pas seul, c'est pas ma petite communion, c'est nous sommes frères et sœurs, on y va ensemble, qu'on puisse communier ou pas, on s'approche ensemble de l'époux et on se porte dans la prière. Vous voyez ? C'est comme le premier de cordée qui suit les autres, qui tire les autres. On va ensemble, les amis, vers l'époux. Et il y a une dimension eschatologique, c'est-à-dire une dimension de fin des temps. C'est peut-être le retour du Christ maintenant, c'est peut-être la dernière communion, c'est l'époux qui revient. Donc voilà, l'épouse, l'église, va vers l'époux, il y a cette procession nuptiale qui est la procession eucharistique. Donc c'est très très beau, c'est très traditionnel de prier, de chanter, parce qu'on y va ensemble, on est un cœur. Et nous recevons le Seigneur comment ? Déjà, il est bon de faire une bonne inclinaison, ou une genuflexion, ou les deux genoux carrément, parce que c'est le moment le plus important. Nous allons recevoir le Seigneur ou être bénis par le Seigneur, touchés par le Seigneur, le contact cœur à cœur, corps à corps. Donc on s'y prépare. Vous imaginez que vous recevriez une Légion d'honneur du président, vous mettriez le paquet. Ben là, c'est plus fort, c'est Dieu, ce n'est pas la Légion d'honneur de Dieu, c'est Dieu tout court. Donc on met le paquet. Donc il faut vraiment manifester un signe d'adoration très grand par une inclinaison, une genuflexion, si on le peut. Là encore, l'Église nous invite dans une modalité de geste, là pour le coup, qui est libre selon chacun, à la différence de la genuflexion et de la consécration. Qu'est-ce qui est permis en termes de communion de geste ? C'est important. Ce qui, avant de dire cela, et ce qui est très important, c'est la charité entre nous qui doit prédominer. C'est-à-dire, nous ne devons pas, tout en sachant, juger nos frères et sœurs qui font autrement, parce que ce serait contraire à ce que demande le Seigneur de nous aimer les uns les autres. Mais la charité, donc ça c'est important, et respecter les frères là où ils en sont. Mais la charité demande aussi d'être éclairée, et nous avons besoin en vérité de savoir ce que dit l'Église. Pour nous aider, l'Église ne nous dit pas pour une mère fouettard qui veut nous empêcher, mais pour nous dire, voilà une manière fructueuse de recevoir Dieu, de l'honorer en toute vérité, et aussi de rentrer dans le mystère sans en diminuer le sens. Donc comment on rentre dans le mystère dans la communion? Il faut savoir, malgré tout ce qu'on dit, que ce qui est le plus traditionnel à la communion, c'est la communion dans la bouche. La communion dans la bouche est la forme la plus traditionnelle dans l'Église, de tout temps, pour communier. C'est très important de le dire. Il est permis de communier à la main, et je vais le dire, et aussi de manière belle, c'est-à-dire une main sous l'autre, pas les deux à côté, et finalement, ils tombent par terre, pas en mode pincette, je te prends Jésus, je m'en vais. C'est communion sur place, à ce moment-là, directement. Mais il est permis de le faire, et on a des sources scripturaires qui datent aussi des pères de l'Église, en parlant d'un trône qu'on fait pour Dieu. Donc ça a aussi sa valeur, et ça a été remis post-Vatican II, ça a une vraie valeur. Mais, il faut le dire, ce n'est pas normatif. Ce qui est plus traditionnel et plus universel, c'est la communion dans la bouche. Parce qu'elle exprime mieux la dimension d'honneur et non de mendication, et non de prise d'un objet. Et puis aussi par respect pour le corps de Jésus, ou comme diraient certains, c'est les mains consacrées qui doivent toucher le consacré. Donc on peut dire qu'il y a plein de convenances à faire cela. Mais les deux sont permis. Et les deux sont permis en France, et donc nous devons honorer et respecter nos frères et sœurs qui utilisent les deux. Parce qu'en France, nous avons un indulte, une autorisation qui date de Paul VI, si je me souviens bien, qui permet de communier soit dans la bouche, soit dans la main. Je lis un indulte des papes, parce que Benoît XVI et le pape Jean-Paul II, le saint Jean-Paul II, s'est exprimé en disant qu'ils préféraient la communion à la bouche. Mais il y a eu des autorisations, donc on les permet. Mais cet indulte est français. Vous allez dans d'autres pays, il faudra communier qu'à la bouche. Voilà. Donc il faut savoir tout cela, parce que ça, c'est assez objectif, pour le dire. Voilà. Donc chacun fait comme il veut, dans ce qui est permis par l'Église, du moment que c'est très respectueux. Et on dit « Amen » en forme ordinaire, en extraordinaire, le prêtre dit « Corpus Christi Amen », donc on dit rien, mais quand quelqu'un qui a forme extraordinaire communie en forme ordinaire, c'est bien qu'il dise « Amen » parce qu'on attend un retour, et on n'attend pas qu'il dise rien. C'est l'acte de foi qui s'engage dans le « Amen » à ce moment-là. Et aussi, on ne dit pas « Merci », on dit « Amen ». Ça, c'est important, on entend parfois ça. Voilà, c'est « Amen », c'est-à-dire « J'engage ma vie, c'est plus solide, je me donne ». Et qui communie à qui? Intéressant. On reçoit Jésus physiquement, il vient en nous, hein, on en a conscience. Mais en réalité, on est plus assimilé par Dieu que nous-mêmes, nous l'assimilons. Donc en fait, il y a bien un don de nous-mêmes à Dieu. Aussi vrai que visiblement, il y a un don de lui à nous. En général, l'invisible est toujours presque l'inverse de ce qu'on voit. Bien sûr, c'est pas toujours vrai, parce que évidemment, le visible nous dit quelque chose d'invisible. Mais je vous ai dit, c'est le ski qui traque le prêtre en réalité, même si on voit l'inverse. De la même manière, nous communions, nous recevons bien Jésus, mais en plus Jésus nous assimile. Mais pourtant, invisiblement, c'est Jésus qui nous assimile plus que nous l'assimilons. Et donc, il est dans le « Amen », il y a bien « Je te donne ma vie, Jésus ». Ce n'est pas simplement « Je te reçois, mais j'y crois », c'est « Je te donne ma vie, Jésus ». Tu m'assimiles, tu es le solide. Amen. Nous pouvons communier parfois aussi à la coupe et au sang. Je vous dis que si nous ne communions que à la au pain consacré, au corps du Christ, c'est vraiment Jésus. Et vous voyez qu'il y a cette belle image que vous pouvez dire aux enfants d'un miroir éclairé par le soleil et qui brille, qui tombe par terre, qui se fragmente, tous les morceaux brillent encore. Parce que tous les morceaux, c'est comme l'Eucharistie, vous cassez en mille morceaux, c'est toujours Jésus. Donc on ne perd aucun morceau de l'hostie qu'on a touché dans ses mains. Et le prêtre se purifie, fait très attention au sein de l'espèce. Avec le vêtement, cette fois-ci, le purificatoire, qui sert spécialement à purifier les calices, la patène, etc. Ça, c'est très important. Et il peut le faire le diacre, le prêtre. On reçoit l'Eucharistie, et quand on reçoit l'Eucharistie, on reçoit tout. On peut communier parfois au corps et au sang, mais en réalité, on communie à tout en communiant à l'Eucharistie. Et Thérèse d'Avila a eu cette tentation de la gourmandise spirituelle. En gros, je veux une grosse hostie. Peut-être meilleur goût, mais ça me fait, j'ai l'impression de manger cuit du Jésus. En réalité, Jean de la Croix, son père spirituel, a découpé le style au maximum, il y avait un micro partout, quoi. Il a dit, mais c'est tout Jésus, là. Il faut y croire. Voilà, guérison de sa gourmandise spirituelle. Ça a été draconien. Et donc, quand vous recevez l'hostie, quelle qu'elle soit sa configuration, petite ou grande, c'est tout Jésus. Vous pouvez croire avec la même foi. Voilà. Ça, c'est important. Quand vous recevez exceptionnellement le sang du Christ, comment on communique au sang? On ne communique pas par intention. Ou alors, si on s'entend, il faut s'entendre sur le terme intention et le savoir. Deux manières sont permises par l'Église. Soit le prêtre trempe le sang du Christ, le corps du Christ dans le sang du Christ et vous fait communier directement la bouche. Soit alors, vous recevez dans vos mains ou dans vos bouches le corps du Christ et à la fin, après, vous buvez à la coupe. Mais jamais, au grand jamais, vous trempez vous-même le corps du Christ dans le sang du Christ. Pourquoi? Parce qu'on peut faire tomber des gouttes et qu'on n'a pas à profaner le sang du Christ, même malencontreusement. Et deuxièmement, spirituellement, je ne prends pas Jésus, je le reçois. Je ne plonge pas Jésus, je le reçois, je bois. Donc ça, c'est vraiment l'Église nous demande d'être dans une attitude de réception et pas respect pour les saintes espèces et non de prise. Et ce geste-là exprime plus une prise qu'une réception. Et dans la pratique, souvent, il y a des dégradations involontaires, mais ça arrive. Donc voilà pourquoi l'Église n'autorise pas l'intégration faite par les fidèles. Qui est ministre de l'Eucharistie? Le ministre ordinaire est le prêtre par excellence, l'évêque, forcément, parce qu'ils sont tous les deux prêtres, et de manière rajoutée, le diacre. Le diacre participe, c'est-à-dire qu'il peut donner l'Eucharistie. Voilà, ça fait partie de sa fonction liturgique. Il peut lever la coupe, et le diacre exerce toujours son ministère, à droite du prêtre pour lever la coupe. Mais il ne dit pas les paroles par lui avec lui en lui, parce qu'il n'est pas prêtre. Il ne fait pas la prière du sacrifice, mais il assiste le prêtre. C'est la charité qui assiste le sacerdoce, le service qui assiste le sacerdoce. Et le diacre et le prêtre sont les ministres ordinaires de l'Eucharistie. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils sont alors? Les autres, ils sont ministres extraordinaires. S'ils sont appelés occasionnellement par le prêtre, ils peuvent l'être à titre extraordinaire, non habituel. Personne ne peut se conférer ce droit, ça l'est donné par l'ordination. C'est important. C'est important, voilà, pour bien comprendre les choses. Alors, quand nous avons communié, autant nous avons un grand champ pour aller communier, autant une fois que nous avons communié, ou que nous n'avons pas pu communier, mais demander les grâces spirituelles pour pouvoir recevoir quelque chose de la mort et de la résurrection du Christ qui me touche devant le prêtre, et des fois il y a des grâces qui sont données très fortes à ce moment-là aussi, on se rassoit et c'est le moment du cœur à cœur. C'est pas le moment de regarder sa montre pour dire si Madame de Maron, elle a été trop cuite. C'est ni de dire, il a bien parlé pendant le milieu, après, hein, de garder les enfants, tant qu'on peut. C'est le moment du cœur à cœur en silence où nous prions le Seigneur. Et à ce moment-là, nous sommes un cœur à cœur avec le Seigneur et nous l'adorons et nous commençons par l'action de grâce. Nous suivons par « Je t'adore » dans du « ou » inversement « Je t'adore et je te rends grâce ». Mais c'est les attitudes vers lui. C'est important. Dieu jugerait notre être. Enfin, ne jugerait pas, mais il y a un moment donné, il faut plus être ingrat. Il faut savoir dire merci à Dieu pour ce qu'il est lui-même. Voilà. Surtout si nous prenons conscience qu'il a tout donné. Il faut savoir un moment dire merci et adorer d'abord, avant de demander. Et qu'une fois que c'est fait, nous pouvons demander. Voilà, passer du temps. Voilà. Et c'est important, c'est un temps de construction. Voyez, là, c'est joué notre communauté. Là se joue notre union avec Dieu et notre union les uns les autres. Elle passe par Jésus qui nous unit. Le corps de Jésus unit, crée le corps de Jésus. Crée l'Église. Après la communion, il y aura une prière conclusion, voilà, une prière post-communion que fera le prêtre au nom de tous, qui rassemblera les prières au nom de tous les frères, qui généralement est une thématique autour forcément du sacrifice que nous avons reçu. Par exemple, aujourd'hui, c'est après la communion, ça aurait été par le sacrement de notre rédemption, nous avons été fortifiés, permet que cet aliment de salut éternel fasse progresser dans la vraie foi. Voilà, c'est une prière conclusive par rapport à ce que nous avons reçu de l'Eucharistie. Et le prêtre va bénir, le Seigneur soit avec vous, il va bénir et il va dire allez dans la paix du Christ, c'est-à-dire vous êtes envoyé en tant que consacré ou marié. Ou confirmé, ou prêtre, à annoncer celui que vous avez reçu et entendu et rencontré aujourd'hui. Allez dans la paix du Christ et à le faire connaître. Et nous rendons grâce à Dieu, nous remercions le Seigneur pour tous ces dons. Voilà pour ce qui est la messe.